Bonjour, bonjour, Yves au micro-micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas à la tradition, eh ben non, et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent sur un peu n'importe quoi maintenant, mais aussi dans les grandes salles de cinéma avec des fauteuils confortables et pas de pop-corn s'il vous plaît. Ce jour dans 24 notes secondes, nous avons évoqué la carrière d'un cinéaste britannique qui aura réalisé plusieurs films aux États-Unis, mais plusieurs aussi dans son pays natal, dénommé John Boorman, né le 18 janvier 1933 à Shepperton dans le Middlesex. Vous ne savez pas où c'est, moi non plus, mais en tout cas c'est quelque part dans la banlieue ouest de Londres. John Boorman, donc, qui fait une partie de son éducation chez les jésuites avant de passer une partie de sa jeunesse et bien sous les bons de la Seconde Guerre mondiale, ce qui, ma foi, contribuera pour part à sa vision du monde et, on va le voir, à sa filmographie. Juste après la guerre, eh bien, il devient critique de cinéma, de radio, puis entre à la télévision où il tourne quelques courts-métrages avant qu'en 1965, il avait déjà tourné quelques films documentaires auparavant, mais en 1965, il tourne son premier long-métrage. Ça s'appelle « Catch Us If You Can », sauf qui peut, donc c'est pas tout à fait la même chose en français, en anglais, vous l'aurez compris. Un film, ma foi, que je n'ai pas vu et qui, semble-t-il, ne marqua pas les esprits. Ensuite, John Boorman entreprit le tournage d'un documentaire consacré à David Ward Griffiths, le grand cinéaste du muet, pour lequel il professait une grande admiration, et par ce biais qu'il rencontre un producteur qui lui propose le scénario d'un film qui va devenir le point de non-retour, Point Blank en anglais, un film dans lequel doit jouer Lee Marvin, et ça tombe bien, puisque au moment de la préparation du film, Lee Marvin est en Angleterre où il tourne un film qui va contribuer à le rendre encore plus célèbre qu'il n'est déjà, Les 12 salopards de Robert Aldrich, qui va en faire une star. Et en tant que star, et il faut lui reconnaître ce courage, c'est lui qui impose John Boorman, qui est un cinéaste déjà anglais, ce qui pour un Américain relève quasiment de l'hérétisme, et puis surtout qui n'a réalisé jusqu'alors qu'un seul film, peu connu et à vrai dire peu apprécié, et c'est donc Lee Marvin qui l'impose. Coup d'essai, coup de maître, puisque Le Point de non-retour, qui est inspiré d'un roman de Richard Stark, avec un scénario co-signé de personnes qui vous sont, comme à moi, inconnues, Le Point de non-retour est salué comme une sorte de renouvellement brillant du film policier. Alors, l'argument n'est pas des plus originaux, mais le traitement, lui, l'est. Et Lee Marvin avait fait un bon choix, puisque en tant qu'acteur et en tant que vedette, ce qu'il est devenu assez tardivement, après 20 ans ou presque de second rôle, en tant que vedette du film, Lee Marvin est absolument magistral. Il faut dire qu'il a la chance d'avoir à ses côtés la belle Angie Dickinson, ce qui n'est pas pour lui nuire, pardonnez-moi, je voulais dire l'inverse. La musique de ce film est signée de Johnny Mandel, on en écoute un extrait, Point Blank en anglais, Le Point de non-retour en français et en canadien, dans 24 notes secondes. Ça, c'est de la musique cool, ou je ne m'y connais pas, cool de chez cool, un extrait de la bande originale du Point de non-retour, signé du trop rare Johnny Mendel, trop rare au cinéma, l'homme a eu d'autres carrières. Un film dans lequel on retrouvait Lee Marvin et Angie Dickinson dans les rôles principaux, le tout sous la houlette de John Boorman. Coup d'essai américain, coup de maître, le Point de non-retour est remarqué et Lee Marvin et John Boorman ne peuvent plus se quitter. D'ailleurs, plus tard, John Boorman fera un documentaire autour de Lee Marvin, A Personal Portrait by John Boorman, of Lee Marvin. Et il se retrouve en 1969 sur un film intitulé Duel dans le Pacifique qui raconte, il n'y a que deux personnages, Lee Marvin qui joue l'américain, Toshiro Mifune, un grand acteur japonais, la star du cinéma au Japon, qui joue le japonais, qui se retrouve sur une île du Pacifique, comme le titre du film l'indique, en français comme en anglais ou presque, Hell in the Pacific. Au départ, eh bien évidemment, comme ce sont les soldats d'une guerre opposée, eh bien, ils se haïssent et ensuite ils collaborent, bien sûr, avant de repartir chacun de son côté. Chacun parle dans sa langue, il n'y a pas de sous-titres. Donc vraiment, c'est un film qui joue beaucoup sur l'image et sur l'improvisation, puisqu'il a été improvisé. Mais pourquoi vous en parlez-je tant alors que je ne comptais pas vous en proposer un extrait de la bande originale ? Honte sur moi, parce que c'est un très grand film, malgré tout, même si on ne l'écoute pas. Ensuite, il y aura Léo Zola, un film tout à fait différent avec Marcello Mastroianni dans le rôle principal qui d'ailleurs rencontrera un succès plus que contrasté, c'est-à-dire rencontrera peu de succès. Et en 1972, eh bien, John Boorman va tourner l'un des deux films les plus importants, en tout cas les plus retenus de sa carrière. Le film, il s'appelle Délivrance. On y voit dans les rôles principaux John Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty. Je vous en dirai deux mots, mais vous allez écouter la bande originale. Et si vraiment ça ne vous rappelle rien, je ne sais pas si je vous remettrai en deuxième semaine dans 24 notes secondes.
Thank you.
je ferais bien. Yep ! Mais là, je l'ai fait. Un extrait, le fameux Dueling Banjo de la bande originale de Deliverance. Alors, je peux vous dire qu'en 1972, quand le film de John Boorman est sorti sur l'écran, on n'entendait que ça. Parfois, il y a des bandes originales qui dépassent même le succès du film. C'était le cas de ces Dueling Banjo qui, dans mon souvenir, étaient joués dans le film Les Banjos par deux semi-débiles, il faut bien le reconnaître, rencontrés quelque part dans la nature sauvage du nord de la Géorgie, où s'aventuraient quatre amis, donc John Voight, Burt Reynolds, Ned Beatty et sans doute Ronnie Cox, je l'avoue, que je n'avais pas encore cité. Ils voulaient justement retomber en contact avec la vraie nature hors de la civilisation. Bah, ils ont été plutôt servis, puisque leur aventure se passe mal. Elle se passe même très mal, avec des péripéties plutôt traumatisantes. Dans les années 70, le film fit presque scandale pour des scènes relativement difficiles, et on y retrouvait bien une des thématiques assez, je dirais, récurrente de John Boorman, c'est-à-dire ce rapport à la nature qui passe toujours par un mélange de fascination et de violence. Et il y avait un peu des deux dans ce film, alors qu'il bénéficiait d'une magnifique photographie signée de Vilmos Zsigmond, le grand Vilmos Zsigmond. Et il faut dire que l'équipe de tournage faisait chaque jour des kilomètres et des kilomètres pour atteindre un endroit complètement inaccessible, ce qui du coup rendait effectivement fascinante la nature, un peu moins les autochtones qu'on pouvait y rencontrer, puisqu'il y avait quand même des autochtones. Bref, Délivrance, après le point de non-retour, eh bien, c'était un nouveau coup de maître de John Boorman. Hélas, les deux films qui suivirent ne furent pas à l'aune, je dirais, de ce succès. Puisqu'en 1974, on vit Zardoz, un film que moi j'aime beaucoup, mais je suis le seul à l'aimer, mais c'est pas grave. Oui, j'aime Charlotte Rampling, et oui, j'aime Sean Connery quand il est habillé tout en cuir. Oui, ça me fait frissonner, et oui, j'ai le droit de le faire, même si je n'ai pas le droit de vous proposer un extrait de la bande originale, parce que je ne l'ai pas trouvé, mais je vous le recommande quand même, un film de science-fiction que d'aucuns qualifient de tout pourri, mais je les méprise. Et on va rester un peu dans le genre, en tout cas on va rester dans le genre horreur fantastique, puisque en 1977, après avoir refusé de tourner le premier film, à savoir L'Exorciste, qui sera finalement réalisé avec le succès que l'on sait par William Friedkin, eh bien, John Boorman se trouva bien improbablement aux commandes de la suite de L'Exorciste, évidemment, gros succès égale suite. Ça s'appelait L'Exorciste 2, vous l'aviez compris, sous-titré L'Hérétique. Ma foi, le résultat est peut-être un des seuls cas, j'avoue que L'Exorciste est un film qui, à mon avis, a assez mal vieilli, c'est peut-être un des seuls cas où la suite est supérieure à l'original, j'ose le dire, comme pour Zardoz, en tout cas un film qui gagne à être revu. Dans les rôles principaux, il y avait évidemment Linda Blair qui reprenait son rôle de Regan, l'enfant possédé. À ses côtés, il y avait encore Max von Sydow qui jouait le rôle du père Merrin, qui apparemment avait échappé au massacre du film originel. Et puis il y avait Richard Burton et Louise Fletcher, ma foi fort convaincants. La musique du film était signée d'Ennio Morricone dans la grande gloire de sa période américaine. Alors il y avait des morceaux un peu difficiles quand il s'agissait d'évoquer le démon Pazuzu. Je vous les épargne, on va plutôt écouter du Morricone pur jus, L'Exorciste de l'Hérétique dans 24 notes secondes.
Oh,
un extrait de la bande originale, alors typiquement morriconienne, vous me le concéderez, de L'Exorciste 2, L'Hérétique, pardonnez-moi, un film de John Boorman, la suite donc de L'Exorciste, mais enfin plutôt bienvenue. En 1980, John Boorman signe son plus gros succès, mais comme on en a un peu marre d'écouter les Carmina Burana, je ne vous proposerai pas d'extrait d'Excalibur, une réadaptation très punchy des romans de la Table Ronde avec des acteurs plus ou moins inconnus comme à l'époque Liam Neeson ou Gabriel Byrne dans les rôles principaux. C'était sanglant, mais ma foi, c'était effectivement bienvenu. Ensuite, on vit La Forêt d'Émeraude en 1985 avec son fils dans le rôle principal qui retrouvait un peu, mais de façon un peu plus atténuée quand même, l'ambiance de délivrance. La Forêt d'Émeraude, c'était une forêt d'Amazonie que découvraient des gens qui s'y trouvaient égarés par accident. Et il y avait ce même rapport à la nature que j'ai déjà évoqué. Et on va écouter un extrait de la bande originale de Hope and Glory, La Guerre à 7 ans, un film tourné en 1987 qui raconte tout simplement l'enfance de John Boorman, que j'ai moi-même évoqué au début de cette émission. L'enfance de John Boorman sous le Blitz, c'est-à-dire ce tapis de bombes que Adolf Hitler fit parvenir sur le sol anglais, et notamment sur Londres et ses environs, en espérant briser ainsi la résistance de ce peuple. Mais c'était vraiment sans compter sur la force de caractère des sujets de Sa Majesté, qui à l'époque était un garçon, George VI, je vous le rappelle. Allez, on écoute un extrait de cette bande originale, la musique elle est signée de Peter Martin, Hope and Glory. 24 notes secondes. Un extrait signé Hélène Sava à la chanson, à la voix, de la bande originale de Hope and Glory, La Guerre à 7 ans, de John Boorman. Alors après ce film tourné en 1987, eh bien, La carrière de John Boorman aura été plus contrastée. On peut en retenir Le Général, tourné en 1998, avec Brendan Gleeson dans le rôle d'un criminel irlandais, même Le Tailleur de Panama, adapté de John le Carré en 2001. Et on va se quitter en écoutant un extrait de ce qui était un peu la suite de Hope and Glory. Ça s'appelle d'ailleurs Queen and Country, vous verrez le rapport. Alors, ce n'est pas la guerre à 5 ans ou à 7 ans, c'est la guerre à 14 ans, mais c'est un peu la suite autobiographique du précédent film. Et à ma connaissance, c'est le dernier film à ce jour tourné par John Boorman, et c'est bien dommage. Hope and Glory, c'est déjà passé. Queen and Country dans 24 notes secondes. Et voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, et vous le savez, bye bye. Mm-hmm.